Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence, émission numéro 287, mercredi 8 février 2023, Christophe Rollin au micro, pas de Francis aujourd'hui, il n'y aura donc pas sa chronique littéraire, l'égoïsme se partage en fin d'émission, mais je ne suis pas seul, je suis en fort bonne compagnie, Roxane est avec moi, Christian, Lebray, De Guiche, Ragnaud, il y a même aussi, qui encore y a-t-il, la Duègne, je crois, tout le monde est là. Non, en fait, c'est seulement Jérôme Sauvion qui est présent, mais Jérôme Sauvion, de la compagnie Face Nord, eh bien, vient nous présenter Cyrano Project. Project même, je crois, il y a une forme d'anglicisme. Cyrano Project qui sera donné du mardi 28 février jusqu'au samedi 18 mars. C'est au Théâtre Comédie Odéon. Une mise en scène de Caroline Boisson et donc eh bien, notre invité, Jérôme Sauvion, va tout nous dire, à peu près tout, je crois, sur lui-même. Vous allez voir, portrait, début d'émission, comme toujours. Et puis ensuite, il va tout nous dire sur cette adaptation de la pièce d'Edmond Rostand, 1897. Une comédie avec longue en 5 actes, avec beaucoup de comédiens, beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnages sur scène, mais Jérôme Sauvion les fera tous. Pourquoi ? Mais qu'est-ce donc ? Nous allons tout savoir d'ici quelques instants, une fois qu'on aura lancé un premier titre. On va commencer avec un feu inoubliable, Unforgettable Fire, extrait de l'album du même nom de U2. Et puis ensuite, nous continuerons jusqu'à 15h, comme tous les mercredis. Vous nous écoutez, vous le faites très bien, sur radiocanu.org, si c'est sur Internet. Et si c'est à Lyon, c'est sur le 102.2 de la bande FM. pas très beau. Auditeur, auditrice, j'en suis désolé, ce n'est pas très élégant de comme ça chasser ce titre de U2 Unforgettable Fire, mais c'est avec l'accord de notre invité Jérôme Sauvion. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Que je me suis permis cela. C'est d'ailleurs vous qui avez suggéré ce titre ainsi que le reste de la programmation musicale. Je peux déjà annoncer les titres à venir. Gaël Faye, enfin du moins les artistes. Gaël Faye, tantôt il y aura aussi Christopher Cross et puis même Walk of the Earth. On peut commencer par une première question. Jérôme Sauvion, pour nous parler un peu de ce spectacle qui sera à venir du mardi 28 février jusqu'au samedi 18 mars au Théâtre Comédie Odéon. Vous serez seul sur scène et donc pour nous parler de vous, et il faudrait, c'est un peu le cahier des charges hein, de l'émission, un portrait de l'artiste, un portrait de l'invité en début d'émission. Et donc peut-être une première question, certes, qui êtes-vous, mais pourquoi écouter ce titre de U2, extrait de, je crois que c'est... Non, c'est peut-être pas le Joshua Tree, c'est pas forcément le premier album.
C'est celui-ci. Bien avant, c'est un ou deux albums avant, je crois, sauf erreur de ma part.
C'est le premier alors celui-ci, c'est ça
le Non, c'est pas le premier, parce que le premier... Si je ne m'abuse, c'était le fameux, dont je ne me souviens plus du nom, bien sûr. mais évidemment, quand on me le demande, mais voilà, ça ne revient pas.
Nous ne sommes pas là pour parler de la discographie, voilà. La discographie du tout, mais plutôt vous avez un rapport avec ce titre en particulier.
En fait, oui, il y a un rapport avec ce titre, ça correspond à mon adolescence. C'est voilà, un grand amour de musique autour de U2. Et puis, ça ramène à des souvenirs donc, d'ado où j'étais... en pension toute la semaine, avec des mercredis après-midi qui étaient vides, et avec une proposition de la part du collège et du lycée où j'étais, de faire du théâtre le mercredi après-midi. Et voilà, ça ramène à ça, c'est par là que ça commence.
En Vendée, côté voilà, Atlantique
Vendée,
un peu.
Du côté, alors loin des premières plages, on était bien dans les terres, mais...
Oh, 50 kilomètres, non, davantage hein.
60. Bon, on était, parce que j'étais pas à Montaigu, c'est mon village d'origine, mais j'étais pas à Montaigu en pension, j'étais beaucoup plus loin du côté de Montournay, perdu dans le bocage vendéen, à la limite des Deux-Sèvres, donc on était très loin de la mer, mais en attendant, voilà, c'est là-bas que ça a commencé, cet amour pour le théâtre, qui était tout d'abord une façon de tromper l'ennui, et puis une fois les doigts mis dans l'engrenage, et ben voilà, c'est parti.
Y a-t-il des premiers textes, justement, peut-être le Cyrano, notamment
ou... Antigone,
ah, voilà, de Jean Anouilh, je suppose, c'est ça,
voilà,
la version.
Oui, oui. Et puis, il faut que le sycomore coule, de Jean-Michel Ribes.
Frères... Ah, mais ça c'est actuel, ça.
Voilà,
c'est...
Frères humains, je me souviens plus du nom de l'auteur. Et puis après, on avait monté un duo avec un grand ami qui s'appelait... le contre-pitre, une histoire de clown qui se cherche, voilà, plein de choses qui ont fait que plus des stages proposés sur l'île de Noirmoutier à l'époque pour une rencontre théâtrale qui s'appelait le printemps de Noirmoutier. On rencontrait d'autres collèges et lycées qui nous montraient leur travail, on montrait notre travail à nous, on travaillait avec des pros et on voyait des spectacles pros pendant 3-4 jours. Donc c'était des rendez-vous que j'attendais vraiment avec impatience parce que c'était riche en rencontres, en apprentissage. Et puis c'est un peu à Noirmoutier que ça s'est décidé, en discutant un peu avec des pros qui m'ont dit « Écoute, il y a un petit truc là, il y a des capacités, si tu sais pas trop quoi faire à la sortie de ton bac, pense-y. » Et puis, aux grandes dames de mes parents, dans un premier temps, j'y ai un petit peu trop pensé. Voilà. Et puis voilà, après, voyage vers Lyon pour passer le concours d'entrée du conservatoire, que j'ai réussi sur la fameuse scène des A de Cyrano de Bergerac. Et puis, il en est resté quelque chose aussi de ce Cyrano de Bergerac-là, parce que j'en avais vraiment envie. Et puis voilà, quoi... Comme personne ne me proposait le rôle, je me suis dit il y a une dizaine d'années qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose.
Et puis je vais tout faire.
Voilà, je vais tout faire.
On est peut-être déjà sur la deuxième question que je poserai. Non, il n'y a pas de problème. C'est moi, je me demandais, vous ne passez pas par Paris, non? C'est
j'ai essayé, mais en fait, je voulais passer le concours de la rue Blanche à l'époque. Et puis, j'étais trop vieux, mais au téléphone, on m'avait dit que ça allait, que c'était bon. Donc, j'étais monté exprès de Lyon jusqu'à Paris pour m'inscrire. Et arrivé sur place, on m'a dit non, vous êtes trop vieux. Donc, j'ai fait un aller-retour à l'époque qui m'avait coûté assez cher financièrement et qui m'a mis un peu en colère. Donc, du coup, Paris, je l'ai laissé un petit peu de côté. Je ne sais pas si c'est cette expérience-là qui a fait ça. Mais en tout cas, pour l'instant, une vie parisienne comédien, non, ça ne s'est pas fait du tout, en fait.
Vous évoquez le conservatoire, ce n'est pas. J'ai un autre nom en tête, l'ENSAT.
Ce n'est pas l'ENSAT, parce qu'en fait, l'ENSAT, c'est l'ancienne rue Blanche, justement, qui s'est délocalisée sur Lyon.
Rue des Sœurs, quelque chose, je crois, à Lyon, non, il me semble. En tout cas,
c'est là-haut.
côté Fourvière, voilà.
Du côté Fourvière. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, non, le conservatoire, c'était l'école, le conservatoire régional de. Non. Conservatoire national de région de Lyon à l'époque, avec Jeannine Berdin et Philippe Clément comme profs principaux. Philippe Clément, que j'ai retrouvé plus tard, qui m'a fait confiance lorsqu'il a monté le théâtre de l'Iris dans la foulée de mes années de conservatoire.
Il m'a à Villeurbanne.
Ouais. Voilà, à Villeurbanne. Et c'est lui qui m'a offert mon tout premier job professionnel en proposant le rôle d'Argante dans Les Fourberies de Scapin. Un spectacle qui se joue encore bien, je sais pas, 30-35 ans plus tard, quelque chose comme ça.
Argante, c'est celui qui se fait bastonner par Scapin?
Non, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est le moins connu, c'est le moins populaire.
C'est celui qui se fait escroquer, je crois, c'est ça?
Oui, ils sont tous les deux escroqués de toute façon.
Quel est différent dans cette galère? C'est bien Argante.
C'est toujours Géronte aussi.
Ah, c'est toujours Géronte?
Non, les deux scènes emblématiques de Scapin avec les deux vieux, c'est Géronte qui les tient, effectivement. Ouais. Mais je lui en veux pas, ça me
montre
bien.
C'est un beau rôle aussi, Argante.
J'aime beaucoup.
Peut-être, puisque on évoque Villeurbanne avec ce théâtre Lyris, une rectification de début d'émission, j'ai lancé un nom de compagnie.
Ah.
Ce n'est pas ainsi qu'il faut la nommer. Créée il y a de cela 20 ans, pour y rebondir davantage.
Oui,
la nommer tout d'abord.
La Face Nord Compagnie, voilà. Alors si elle s'est appelée comme ça, c'est parce que très étonnamment, vendéen d'origine, j'étais très montagnard dans la tête et dans les envies. Je faisais beaucoup de montagnes dans les Pyrénées. Puis le choix d'arriver sur Lyon n'est pas innocent non plus. Parce que quand on est vendéen et qu'on a envie de faire de la montagne, Lyon, c'est pas une mauvaise idée. On est très près des Alpes. Donc voilà, ça a été, je l'avoue, un petit peu une excuse un peu malhonnête que de venir faire du théâtre à Lyon. Il y avait quand même une grosse envie d'être en altitude qui pouvait se concrétiser en étant ici. C'est pour ça que j'ai appelé cette compagnie, la Face Nord Compagnie, sachant aussi que les faces nord sont réputées, dans notre hémisphère en tout cas, pour être les plus difficiles, les plus dangereuses. Et je trouvais que ça parlait pas mal de notre métier, qui n'est pas forcément dangereux, mais qui n'est pas toujours facile en tout cas. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil. Sachant qu'on n'est pas à une contradiction près. Le logo de la Face Nord Company, c'est un casque de plongeur, voilà, un scaphandre. Donc bon, ne me demandez pas pourquoi j'adore les casques de scaphandre. C'est peut-être un héritage de Tintin ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça qui me plaît bien.
Et également, voilà, nous évoquions l'Iris, également basée à Villeurbanne, cette Face Nord Company.
Tout à fait, oui.
Et le spectacle, donc, ce Cyrano Project, est une production de la Face Nord Compagnie.
Tout à fait, oui. Ouais. En fait, quand j'ai monté cette compagnie il y a 20 ans maintenant, c'est parce que j'avais des envies personnelles et que de monter des textes, de monter des spectacles, et qu'en fait, quand on veut travailler et puis monter des spectacles, autant avoir sa propre compagnie, sachant que je me suis entouré de gens de confiance. On est trois, en fait, Franck, Paix, Hugonin, qui est à l'administration. Je ne le remercierai jamais assez, parce que si j'avais dû, moi, me charger de l'administration, je pense que la compagnie serait morte au bout de 6 mois. Voilà, je ne suis pas du tout paperasse, entre guillemets, même si Franck n'est pas que ça, c'est un vrai soutien moral. Voilà, il est vraiment là, partie prenante dans les décisions aussi. Et puis Pascal Nougier, qui lui s'occupe de tout ce qui est technique, qui est là, voilà, pratiquement depuis le début aussi, qui me fait des lumières toujours sublime, ne serait-ce que pour ce Cyrano Project, où j'estime carrément que la lumière et le son sont pratiquement une présence, un échange, une autre personne sur scène.
Vous êtes seul en scène à deux.
Je suis seul en scène, mais grâce à cette lumière et à ce son, j'ai un véritable partenaire de jeu.
Bien, en fait, je crois que nous sommes prêts à évoquer cette pièce parce qu'il me semble qu'on a un peu fait le tour. Non, peut-être un mot de... Puisqu'on a évoqué vos partenaires, vos collaborateurs, les autres personnes qui interviennent également. Peut-être un mot sur Caroline Boisson. Vous rencontrez à l'occasion de... Non pas de cette pièce de Roger Martin-Dugard que nous évoquions tout à l'heure hors antenne, mais c'est... Pourriez-vous peut-être dire deux, trois mots d'elle?
Caroline, elle était dans la promo juste avant la mienne au
CNR.
Au conservatoire, et puis elle est une des cofondatrices avec Philippe Clément du Théâtre de l'Iris, et donc du coup on se rencontre avec Caroline un peu par le biais du conservatoire, mais surtout par le biais de cette première création en ce qui me concerne, première création professionnelle qui est qui sont les Fourberies de Scapin.
Hyacinthe, elle avait un rôle peut-être.
Elle faisait Hyacinthe, tout à fait, et puis voilà, on s'est retrouvés sur d'autres spectacles. Elle m'avait demandé justement d'être le fameux père Leleu dans le testament du père Leleu de Roger Martin Dugard. Et puis quand s'est posé la question d'un metteur en scène pour le Cyrano Project, j'en ai parlé justement avec Franck quand je vous disais que c'était quand même un soutien et un échange assez précieux, et il m'a dit ouais que Caroline ce serait vraiment la personne idéale à cet endroit là sachant que généralement j'étais plutôt metteur en scène et comédien sur La Face Nord, et c'était une des tout premières fois où, sur La Face Nord Company, je confiais la mise en scène à quelqu'un d'autre, parce que faire Cyrano de Bergerac tout seul, c'est déjà quelque chose. Le faire tout seul sans metteur en scène, c'est aller droit dans le mur. Donc voilà, on a évité ça. Et grâce à elle. Elle signe une mise en scène précise, exigeante, intelligente, fine. Bref, c'était, comme je le disais, la personne idéale.
Je vous remercie, nous sommes prêts à parler de cette pièce. Peut-être, Alessia, une ultime question, une interrogation. Est-ce que vous avez donc évoqué le jeu, la mise en scène également à l'instant? Est-ce que vous avez l'avez-vous même déjà fait? Est-ce que vous avez des envies d'écriture? Est-ce que vous avez déjà été dramaturge? Avez-vous composé des textes?
Oui, tout à fait. J'ai écrit plusieurs textes. Le Voyage de Monsieur D, qui est un spectacle qui s'est joué au Théâtre des Marronniers, où on avait de la musique violon-violoncelle. On avait du texte théâtral joué, donc, par les musiciennes et par moi-même.
J'ai mal travaillé, je le vois effectivement indiqué dans le dossier de presse. Voyage de Monsieur D, une production d'avril 2006. Vous êtes à l'écriture, à la mise en scène ainsi qu'au jeu. Alors là vous faites les trois.
Et au dessin aussi, parce que je dessinais en direct sur le plateau, au fusain et carton, et craie et tableau noir. Et puis c'était un spectacle qui était signé en langue des signes, où on avait une comédienne qui signait la plupart du texte, et nous aussi nous signions pendant qu'on jouait. C'était un spectacle qui était accessible aux sourds et aux malentendants. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Les femmes qui partent.
J'en ai d'autres sous les yeux. C'est ce que j'avais aussi. Une production mai 2017. Vous êtes au texte ainsi qu'au jeu.
Tout à fait.
Un piano sur scène.
Un piano et une pianiste, mon amie Oriane Miyori, qui vient ce soir d'ailleurs voir les faux British à la Comédie Odéon, que je salue donc. Voilà,
deux questions tout à l'heure.
Ça nous permettra d'en parler. Et puis là aussi, ça aussi c'était un spectacle un peu particulier, parce que se dévoilait sur scène des tableaux que je fais et qui nous permettaient d'avancer dans l'histoire, qui était recouverte d'un petit tissu noir. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire, les tableaux se découvraient à la vue des spectateurs. Des tableaux dont certains sont visibles en ce moment, j'en profite, justement à la Comédie Odéon, où j'expose jusqu'au 13 mars. Voilà.
Il y a un regard pour cette pièce, Les Femmes qui partent. Est-ce que c'était une forme de... Comment dire, des... des idées, un accompagnement à la mise en scène, c'est ça?
Voilà, c'est un accompagnement à la mise en scène.
Émilie Guiguen.
Émilie Guiguen, qui est aussi une amie. Alors, elle aussi, issue des théâtres de l'Iris. Voilà, j'aurais pu redemander à Caroline Boisson, mais j'aime bien aussi avoir un regard différent. Tout comme, par exemple, j'ai demandé à Serge Pillot de suivre la mise en scène
du Orla.
Un Orla, parce qu'en fait, on l'avait appelé un Orla, parce que c'était un melting pot des trois versions. Et puis Serge, on avait travaillé ensemble sur les Fourberies de Scapin, mais aussi sur le Jules Verne que j'ai monté il y a quelques temps, Voyage au centre de la Terre à la Lune.
Ah oui, d'accord, oui, ça c'est une adaptation de...
Voilà, c'était une adaptation.
Un titre valise, c'est ça?
En fait,
Voyage au centre de la Terre
à la Lune.
Bah, de la Terre à la Lune, d'accord.
C'était, voilà, un croisement des deux romans qu'on a théâtralisé, où on mettait en scène Jules Verne à l'écriture de ces deux romans, écriture simultanée, et donc voilà, il mettait en scène ces personnages. J'étais parti du principe qu'il mettait en scène ces personnages de théâtre, parce qu'il faut savoir que Jules Verne, pour manger, écrivait du théâtre du vaudeville au tout début de sa carrière.
Quand il commençait à Amiens, c'est ça,
bien avant l'écriture des romans.
Et donc commence à Nantes ou arrive à Amiens, je sais plus dans quel ordre ça marche.
Plus, en tout cas, ça se jouait beaucoup à Paris, ces textes, mais je sais plus où est-ce qu'il commence à écrire.
Et le sous-titre est intéressant, Du sol au plafond.
Du sol au plafond, parce qu'effectivement, Voyage au centre de la Terre, à la Lune, voilà. C'était donc un spectacle qu'on avait vraiment installé dans le décor, sur la verticale. Ça allait vraiment au fond, ou tout en haut dans les cintres, mais voilà, on était sur quelque chose de non pas d'horizontal, mais de très vertical.
Et alors, un hommage historique au début d'écrivain de
Jules Verne.
De Jules Verne, qui était plutôt dramaturge, et en plus dramaturge... Votre ville, vous dites.
Voilà, c'était vraiment des portes, des histoires de placards, de d'amants dans le placard.
Ciel, mon mari.
Exactement, on était là-dedans. Et c'est justement ces personnages-là que Jules Verne s'amusait à malmener dans ce voyage au centre de la Terre, jusque dans la Lune. Enfin bref, quoi. Et l'idée, ces personnages de théâtre se rebellaient contre leur créateur, qui se vengeait sur eux. Enfin bref, il y avait un aller-retour comme ça. Je crois, c'était un spectacle assez drôle, qui se suivait plutôt bien.
Et est-ce qu'il y aurait un petit peu de Edmond dedans? Enfin, je veux dire, cette pièce qui est devenue également un film dernièrement. J'ai bien entendu manger le nom...
Michalik,
voilà, Alexis Michalik. Ouais. Pièce au départ, film ensuite. Ouais. C'est donc l'écriture, la pièce, le film porte sur les années, le mois de décembre 1897, où Edmond Rostand crée la pièce Cyrano. On le voit répéter avec Coquelin, c'est ça?
C'est ça, oui.
qui est interprété par Olivier Gourmet.
C'est pure merveille. Hein,
et puis, il y a du vaudeville là-dedans au-dessus.
Il y a un peu ça, on est tout à fait d'accord.
Il y a des histoires d'amour qui est un peu...
Voilà, des histoires croisées, de choses.
D'ailleurs, je crois, Michalik lui-même qui, dans le film, joue le rôle d'un des comtes ou barons.
Alors,
débarque dans l'hôtel.
J'ai vu la pièce, mais j'ai pas vu le film. Et je sais que Alexis Michalik n'était pas au plateau. Donc, je sais pas du tout si. Je connais pas le film, en fait.
On est en train de boucler la boucle, puisqu'il me semble qu'en début de saison, septembre dernier, il y avait une pièce intramuros d'Alexis Michalik. Nous sommes vraiment prêts, auditeurs, auditrices, à évoquer cette pièce qui commence pas tout de suite. Hein. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8, ça commence le mardi 28, c'est-à-dire dans 20 jours, dans 3 semaines, mercredi moins un jour, le mardi soir, 19h.
C'est ça, 19h, oui.
Début de soirée, cette pièce Cyrano Project de Jérôme Sauvion, avec Jérôme Sauvion, mise en scène de Caroline Boisson au théâtre La Comédie Odéon. Nous allons en parler, mais... Une pause musicale peut-être?
Oui. D'accord.
Vous avez une bouteille d'eau, je crois, ça va être éventuellement utile. Qu'est-ce que on s'est dit, peut-être le Walk of the Earth, c'est ça?
Allez,
ou alors vous m'aviez parlé du Sailing de Christopher Cross.
Allons-y pour Sailing.
Bon, alors Sailing.
Je vous dirai pourquoi.
Très bien. Auditeur auditrice, 14h28, nous sommes fin prêt à parler de cette pièce Cyrano Project qui commencera fin février, le dernier jour de février, le mardi 28 jusqu'au samedi 18 mars à la Comédie Odéon. Mais avant cela, préparons-nous et écoutons Sailing de Christopher Cross. C'est une version, je crois que c'est la version de l'album. Je ne suis pas allé chercher autre chose. Thank you. Eh bien, nous aurons écouté ce titre en entier de Christopher Cross, le titre Sailing, que nous devons à notre invité. Merci beaucoup, Jérôme Sauvion, pour cette programmation musicale que vous avez assumée. Vous êtes là pour parler de cette pièce à venir en fin février, du mardi 28 jusqu'au samedi 18 mars. C'est à 19h à la Comédie, au Théâtre Comédie Odéon. Vous êtes là pour parler de ce spectacle, mais peut-être manquait-il de questions pour brosser votre portrait. Que faites-vous quand vous n'êtes pas sur la scène de l'Odéon? Parce qu'en plus aussi, donc première question, puis il y a également une autre question, c'est vous êtes également actuellement sur la scène de la Comédie Odéon, mais vous êtes en alternance, je crois, c'est ça, pour cette pièce les Faux British,
ou disons vraiment, je me fais un peu remplacer parce que ne serait-ce qu'en fin de semaine prochaine, je joue au théâtre pêle-mêle et après avec mon ami Laurent Lacroix, donc je suis absent sur vendredi samedi prochain de la semaine prochaine, donc et je me fais remplacer par un comédien parisien. Et donc voilà, on est sur 21h avec la comédie Les Faux British depuis mi-octobre.
Ça dure, hein. C'est beau ça.
Voilà, ça devait s'arrêter mi-janvier, puis avec le succès qu'on a, ben on continue jusqu'à fin mars, ben, tant qu'à faire, voilà, on en profite. Tout le monde en profite d'ailleurs, parce que les spectateurs aiment beaucoup, puis alors nous on aime beaucoup être sur scène avec ce spectacle-là aussi, donc voilà, tout va bien. Bon, sinon j'en parlais, voilà, des petites actualités de un peu parsemées comme ça de spectacles, donc avec et après de et avec Laurent Lacroix. Puis voilà, d'autres choses, comme je le disais tout à l'heure, j'expose donc en ce moment
à la Comédie
Odéon des tableaux. Et puis, je donne des cours aussi, voilà.
Ça, c'est en journée.
C'est en journée, voilà, pour les options bac, des ateliers, enfin voilà. Bien occupé, j'aime beaucoup. Un petit peu de voix off aussi, ça commence à gentiment se faire. Je me suis formé à ça il y a quelques temps, et puis voilà.
J'ai lu que c'est Gérard Darmon qui fait la voix off pour le début de Astérix et l'Empire du Milieu. C'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai vu. Peut-être, allez, voilà, maintenant il faut que je vous demande, alors que va-t-il se passer? Enfin, comment est-ce que ça commence le mardi 28 février à 18h, à 19h, cette pièce Cyrano Project? Alors, ce ne sera pas la première, hein, c'est un spectacle qui a déjà une belle vie, voilà, 2013, ouais. C'est ça?
Il a été créé en 2013.
Ça lui fait 10 ans.
Ouais.
Et donc, comment parler de cette pièce? Est-ce qu'on peut par le démarrage ou l'histoire, la genèse?
On peut parler de la genèse en se disant que donc, suite à cette entrée au concours du conservatoire, le Cyrano était resté vraiment dans l'envie.
La tirade des A.
Donc. La tirade des A, la fameuse tirade des A.
Avec sa cousine Roxane.
Voilà. Mais que les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais je ne suis pas forcément Gérard Depardieu dans la stature, dans le physique. Je suis un peu plus maigre, un peu moins grand que lui. Enfin, voilà. Donc, personne ne me proposait le rôle. Et arrive un âge où on se dit soit l'envie se concrétise, soit on l'oublie. Et puis j'avais pas envie de l'oublier, donc je me suis dit, je le monte. Et puis comme la Face Nord Company n'est pas forcément très soutenue financièrement, pour ne pas dire du tout, il fallait faire en sorte que ça tienne avec peu de monde. Alors j'ai commencé à réfléchir à une adaptation à 10 comédiens, et ça faisait encore beaucoup trop de monde, puis 5, puis 3. Et tout d'un coup, l'idée est venue parce que j'avais vu un copain jouer... Roméo et Juliette tout seul. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire aussi avec le Cyrano. Et puis, alors ça faisait peur, l'idée faisait peur, mais en même temps, bon, pourquoi pas. Et quand j'en ai parlé, les gens m'ont dit, mais c'est génial, vas-y. Et donc du coup, plus trop le choix. Puisque c'est génial, on y va. Donc après, il fallait inventer tout un fonctionnement. Tout ça, c'est venu avec...
Avec Caroline ?
Avec Caroline Boisson.
Vous avez contacté assez tôt, donc ?
Oui, assez tôt. Voilà, on avait un deal de départ. Je lui montrais un petit peu un début de travail. Elle a regardé mes deux premiers actes en me disant, là, t'es en train de te planter. Donc, et j'étais
précieuse,
d'accord parce que...
Voilà, précieuse, alors, c'est vraiment... Ouais.
J'étais d'accord parce que pendant que je lui jouais les deux premiers actes tels que je les avais imaginés, j'étais en train de me dire non, mais je suis en train de me planter, c'est pas ça du tout.
Vous l'aviez dit tout à l'heure, vous allez dans le mur.
Voilà, j'allais dans le mur, et puis elle m'a dit, par contre, ça y est, ça m'ouvre la vision de ce qu'il faut faire. Et puis elle a eu cette idée-là, et puis voilà, on est parti sur ce qu'il vaut mieux venir découvrir plutôt que d'en parler. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que ça commence par des voix off qui s'égrènent. Le personnage que je suis écoute son téléphone, enfin le répondeur de son téléphone portable, et tout le monde le lâche. Que ce soit, bon, juste pour donner un exemple, mais parce qu'on s'est pas mal amusé sur ses voix off. Voilà, il a, comme le personnage n'a pas beaucoup de moyens pour monter ce Cyrano tel qu'il l'a imaginé selon le point de départ, il voulait le faire avec plein de monde, donc il a demandé à une équipe de rugby de faire les cadets de Gascogne. Et puis, il reçoit un coup de fil de l'entraîneur qui dit que les cadets de Gascogne, ils ont gagné la veille, enfin, l'équipe de rugby a gagné la veille le tournoi intercantonal, donc ils sont pas en état du tout, ils ont trop fêté ça.
C'est
donc ils viendront demain.
C'est vous qui faites la voix ou c'est
Non, c'est un ami du sud qui a
avec un accent
coupé au couteau. Voilà, donc j'ai demandé à plein de gens comme ça de me faire des voix off, et puis après, bah voilà, on règle un petit peu des comptes, c'est rigolo. Et du coup, bah, il se retrouve tout seul et il se dit bah tant pis, les gens sont là, bah, je le fais tout seul. Donc voilà, il se lance dans le Cyrano de Bergerac, un Cyrano qui malheureusement doit faire 2h3/4, pratiquement 3h quand on le joue en entier.
Oui, mais alors voilà, d'affilée, sans entraque.
Voilà. Moi, il fallait que je sois raisonnable, même si l'idée de départ ne l'est pas forcément. Il fallait que je sois raisonnable. Donc du coup. Bon, voilà, on a fait des aménagements de texte, des coupes, comme on se le disait tout à l'heure, avec parfois un vrai crève-cœur, parce qu'il y a coupé certains alexandrins d'Edmond Rostand. C'est bousculer son orgueil de comédien, à savoir, il y a des choses, ben non, Jérôme, tu ne les diras pas, parce que oui, c'est très beau, mais
dans l'économie de la pièce.
Voilà, on peut pas tout garder. Et puis, Edmond Rostand était bavard quand même. Il y a des moments où il se fait un petit peu plaisir dans l'écriture. Faut lui reconnaître ça aussi. Donc voilà, on a coupé et on a les deux, trois premiers actes qui sont quand même assez conséquents. Et l'acte 4 et 5 sont extrêmement resserrés. Parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient alentour, etc. Et nous, on a voulu, avec Caroline Boisson, resserrer vraiment sur le trio Christian, Cyrano, Roxane, qui est vraiment le centre de cette histoire. Et voilà, ça se resserre vraiment sur l'acte 4 et 5, sachant que Christian disparaît dans l'acte 4 et que voilà, il ne reste plus que presque plus que Cyrano et Roxane sur le dernier acte pour le dénouement absolument sublime de cette pièce. Donc voilà, bah des coupes qui ont nécessité un petit peu de réécriture. Je demanderai éternellement pardon à Edmond Rostand de m'être permis ça. Mais des petites réécritures parce que je tenais quand même à ce que la versification soit respectée. Donc, bah, 12 pieds et une rime, c'est une obligation. Voilà.
Nous sommes en train de faire tous les deux comme si l'histoire était complètement connue, maîtrisée par les auditeurs auditrices. Et je vole ces mots à la directrice du centre culturel L'Allegro parce que je les trouve très bien faits, mais je pense que ça n'est pas d'elle. Une sorte de résumé, me semble-t-il, je crois que c'est aussi rimé, ça m'a l'air d'être en vers également. Cyrano, qui elle est, aime la belle Roxane, qui aime le beau Christian et qui l'aime en retour, mais... Bien plus que le beau, Roxane aime les mots. Et Christian ne sait dire que ceux de Cyrano. C'est cette histoire, est-ce qu'on peut... De toute façon, vous l'avez dit à l'instant, une forme de... Enfin, le trio amoureux entre Christian, on l'aura compris avec cette présentation, Christian qui est beau, mais qui manque de mots. Cyrano qui, lui, n'est pas très beau, mais qui a les mots. Et puis Roxane, elle, qui elle, est très belle.
Oui.
Et puis qui a une précieuse aussi, c'est ça
le, très précieuse.
Le terme, et qui aime beaucoup les mots, elle.
Qui aime les mots, mais qui aime aussi la beauté physique. Donc du coup, voilà, elle est dans l'esthétisme. Juste pour en revenir au texte que vous venez de lire, on va rendre à César ce qui appartient à César. Ce sont bien les mots de Stéphanie Lejam, de l'Allegro, qu'elle avait écrit pour présenter le spectacle quand elle l'avait accueilli, alors je ne sais plus en quelle année.
2014,
voilà,
octobre 2014.
Donc Stéphanie nous avait accueillis là-bas, et c'était le texte de présentation qu'elle avait écrit pour la plaquette, et on lui a demandé de pouvoir l'utiliser parce qu'on aimait bien.
Ah,
et
ouais.
Puis voilà, elle a été très gentille et sympathique, donc elle nous a gracieusement donné l'autorisation d'utiliser ce texte. Donc pour en revenir à notre histoire, effectivement, on a une Roxane qui est... En fait, il y a... Ce texte est juste fabuleux parce que... parce qu'on aime beaucoup tous ces personnages-là et en même temps, ils ont tous quelque chose de pas très clair. C'est-à-dire que cette Roxane, elle est juste magnifique, mais elle aime la beauté des mots, on est tout à fait d'accord, mais elle aime aussi la beauté physique et elle voudrait que la beauté physique de Christian corresponde à la beauté des mots qui ne sont pas et qui ne peuvent pas être les siens. Et du coup, on a quelqu'un d'un peu capricieux qui voudrait tout avoir. Et ben voilà, visiblement, ça n'est pas possible. En face, on a un Christian qui n'accepte pas un peu ce qu'on pourrait considérer comme étant sa bêtise et qui du coup finira par se rebeller, ce qui mènera à une grosse catastrophe. Voilà, dans l'acte 3. On a ainsi Cyrano, ce personnage qui se veut droit dans ses bottes, qui avec
intègre.
La scène intègre, voilà.
Non merci, vous la reconnaissez celle-ci.
D'ailleurs, oui, oh, bien sûr.
J'avais l'impression d'entendre parler de la Fasnor Company quand vous avez
un petit peu de ça, oui, peut-être.
Me semble-t-il, non. Pas de subvention, non merci. Pas de protecteur, une protectrice. Mais faut-il que je trisse ?
À mon avis, la scène des non merci est beaucoup plus emblématique de ce que Cyrano que la scène des nés. Bien sûr, la scène des nés, c'est flamboyant, on est tout à fait d'accord. Mais la scène des non merci nous en dit beaucoup plus sur ce qu'est le personnage de Cyrano. Il nous dit, c'est une sorte de testament qui nous dit ce que nous devrions être comme être humain et face à ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des personnages de compromission, parce qu'il faut vivre en société et qu'on ne peut pas faire ou dire n'importe quoi.
Mais est-ce que nous parlons de Cyrano ou bien du misanthrope de Molière avec les portraits d'Alceste et Mélinthe? C'est un peu ça, une droiture de Cyrano qui est compliquée.
Ouais, c'est compliqué, sachant qu'en plus, quand on y réfléchit, lui qui dit qu'il faut absolument être droit, mais quand on le voit agir avec Christian face à Roxane, ce subterfuge de glisser dans l'oreille de Christian les mots qu'il doit dire à Roxane et du coup se servir de Christian pour exprimer son amour à Roxane, c'est quand même extrêmement tordu et ce n'est pas digne d'un personnage comme Cyrano, enfin en tout cas tel qu'il devrait être selon ce qu'il nous dit, ne serait-ce que dans la scène des non-merci. Donc du coup ce personnage-là, il est magnifique et en même temps il est très controversable, on va dire, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais en tout cas c'est quand même bizarre sa façon de procéder et de prendre effectivement Roxane un peu pour une imbécile en se servant de Christian comme ça pour lui dire ses mots d'amour à lui.
La lettre, moi je l'ai sous les yeux, je ne vais pas essayer cet exercice, c'est absolument impossible. Christian qui lance à Cyrano, acte 2, scène 10, mais la lettre qu'il faut au plus tôt lui remettre, je ne pourrai jamais. Moi, je lis le texte d'Edmond Rostand, Cyrano sortant de son pourpoint la lettre qu'il a écrite. On l'a vu écrire cette lettre dans la scène précédente, je crois, ou non, pas la scène précédente, c'est deux, trois scènes avant. C'est quand il est
au début de l'acte 2.
Avec la tirade des A. Oui. Tiens, la voilà, ta lettre. Christian, comment ? Et Cyrano, hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Christian, Cyrano, tu peux l'envoyer, sois tranquille, elle est bien. Christian, vous aviez. Et Cyrano, c'est formidable cette réplique qu'il a. Nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à des chloris de nos caboches. Car nous sommes ceux-là qui, pour amante, n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Prends et tu changeras en vérité ces feintes. Je lançais au hasard ces aveux et ces plaintes. Ces aveux et ces plaintes, tu verras se poser tous ces oiseaux errants. Tu verras que je fus dans cette lettre. Prends. D'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prends donc et finissons. Et cette lettre lira comme un gant. Voilà, c'est ça, lira comme un gant. C'est absolument. Il ment.
Voilà. Effrontément.
Évidemment qu'elle lira comme un gant. Elle est écrite pour elle.
Juste pour elle. Donc
elle
voilà,
est écrite juste pour elle.
On est pile poil là-dessus. Oui.
Comment est-ce que cela fonctionne d'ailleurs là, c'est ce que je viens de faire que j'ai complètement échoué, hein, excusez-moi auditeur, auditrice, sur scène, comment est-ce que ça fonctionne, cette distribution des rôles, ou quoi que vous avez raison, auditeur, auditrice, vous savez, vous souhaitez savoir, eh bien, venez donc, mardi 28 février, les tarifs sont tout à fait abordables.
Je peux donner une indication rapide,
oui.
Avec Caroline Boisson, c'est Caroline d'ailleurs qui a imaginé ce qu'on appelle un chant contre chant théâtral. Au cinéma, on a un chant contre chant, c'est-à-dire que vous avez à l'écran quelqu'un qui parle, et puis en contre chant, l'image se déplace sur la personne qui lui répond. Voilà, chant contre chant. Et bien là, on est pareil. Je suis à une place dans une certaine position, dans une certaine
lumière
stature.
De Pascal Nougier, peut-être, c'est ça aussi.
Les lumières, c'est pas tant la position lumineuse qui fait que la lumière, elle est plus là pour souligner les espaces, les instants, les endroits, les lieux, mais pas forcément, elle ne suit pas forcément les personnages.
Il y a la stature, les jambes sur le sol.
Les jambes sur le sol, la voix. Etc. Donc je suis dans un axe, c'est-à-dire que je regarde dans un endroit, on va dire vers cour ou vers jardin, pour ceux qui comprendront ce qui...
Droite ou gauche de la scène.
Voilà, droite ou gauche de la scène. Et je parle à quelqu'un, en tant que Cyrano, qui est censé peut-être être Christian. Et là, je fais volte-face avec un petit pas de côté, et puis je me tourne vers...
Vous changez de posture, changez de voix.
Surtout pas de costume.
Non, non, de posture, excusez-moi.
De posture. Ouais, excusez-moi, j'avais pas compris.
De posture, de voix.
Voilà, posture. Et là, je réponds à Cyrano en tant que Christian, pour donner un exemple. C'est-à-dire chant contre chant. Et comme ça va très vite, on en parlait justement, c'est très intéressant ce quiproquo qu'on vient d'avoir, pas de changement de costume parce que j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps, c'est instantané. Donc de temps en temps, j'ai un petit accessoire qui nous fait comprendre que je suis tel ou tel personnage, et sinon c'est totalement épuré, c'est avec la gestuelle, le jeu, la voix.
Sur 1h15, heureusement, hein, parce que davantage...
1h25.
Oh là. Oui, même je vois 1h30, ce serait pas possible davantage.
Ça dépend des jours.
Vous finissez complètement, c'est une randonnée à côté de ça, c'est une randonnée face nord, c'est une plaisanterie.
Ça dépend de la randonnée en question.
Vous finissez éreinté, non? Parce que c'est...
Un peu fatigué, oui, mais après...
Il y a un investissement de tous les instants.
En fait, avec le temps, j'ai appris à m'économiser, entre guillemets, je dis bien, mais à trouver là où l'énergie pouvait être économisée et là où elle devait être absolument présente. Et du coup, tout ça, ça se fait voilà. Alors, la comparaison peut-être un petit peu osée, mais c'est un peu comme un sportif qui doit gérer un petit peu son physique, son mental. Et voilà, tout ça, ça s'est fait avec, depuis 10 ans que le spectacle existe maintenant, je vois à peu près où ça peut se reposer et où il faut plutôt donner les moments où je peux respirer, prendre le temps de faire les choses, et d'autres moments où je dois y aller. Et tout ça, ça s'équilibre plutôt bien. Parce qu'il m'arrive parfois d'en faire deux dans la journée, une scolaire l'après-midi, une le soir. Donc c'est des choses qui sont faisables. On m'a proposé une fois d'en faire trois, et j'ai dit bien sûr que non, parce que je ne veux pas exagérer quand même. Voilà.
Comme des médicaments, matin, midi et soir.
Voilà, exactement, mais non, ça a été non.
Est-ce que nous sommes prêts à écouter ce titre, Rule the World, Walk of the Earth, c'est-à-dire The Earth, c'est ce titre qui serait Maîtriser le monde, vous parliez d'économie à l'instant, ou alors peut-être plutôt le titre Irruption de Gaël Faye.
Plutôt Walk of the Earth.
Donc ça, c'est le groupe pour maîtriser le monde, maîtrisons le monde. Auditeurs, auditrices, c'est une simple pause. Il reste encore en fin d'émission quelques annonces, car il y a moins de spectacles en cette période de relâche un petit peu culturel. Mais il y a de belles expositions. Et puis, les Faux British continuent actuellement ou
tout à fait, oui.
C'est en pause? Non,
ça continue.
Il y a même des contes aussi. Je crois que on peut féliciter le théâtre Comédie Odéon qui fait des propositions tout public avec également des pièces pour les jeunes. Vous souhaitez savoir ce qu'il en est? Bien, patientez quelques instants. Écoutons un Rule the World de Walk of the Earth et puis nous poursuivons toujours dans Spectaculaire pour parler de surtout la pièce Cyrano Project avec Jérôme Sauvion. I carry on, I carry on, oh. Jérôme, souvent une programmation très éclectique. Je vous remercie pour ce titre. Donc, Rule the World de Walk of the Earth. Nous sommes là pour parler encore 5 minutes en cette fin d'émission pour parler de cette pièce Cyrano Project qui commence le mardi 28 février jusqu'au samedi 18 mars. C'est à 19h du mardi au samedi à la Comédie Odéon. Normalement, fin d'émission, il y a quelques annonces, mais je vous en prie, il faut quand même que je vous pose cette question. Pourquoi écouter ce titre?
Alors,
c'est un impératif. Maîtriser le monde, voilà. Gouverner
alors,
le monde,
pas du rule tout the world. Titre qui me les paroles qui me font qui me plaisent sur ce qui m'attire sur ce titre là le groupe me plaît énormément, je l'écoute depuis quelques années, mais c'est surtout que c'était une musique qui m'a accompagné quand on est allé jouer le Cyrano Project en Haïti. On est allé jouer là-bas 7 fois il y a quelques années, c'était en 2015 je crois. Voilà, on a été accueillis par l'Alliance française là-bas sur place et on a joué à Port-au-Prince et puis dans 5 autres villes de la de l'île, enfin de la demi-île, puisque
oui, pas la République dominicaine,
voilà,
non, c'était
le partage Haïti. Avec voilà Haïti. Donc ben on a joué dans les ruines du dernier ouragan, dans les ruines du tremblement de terre, etc. Et ça a été un voyage juste fabuleux où on s'est rendu compte que d'autre côté de la de l'Atlantique, des gens aimait énormément la langue française, avait une subtilité d'écoute absolument incroyable. Voilà, vous jouez avec voilà le chat qui traverse la scène, la poule et ses poussins qui traversent devant vous. Enfin, c'est juste fabuleux et voilà. C'était la musique qui m'accompagnait pendant ce voyage-là. Donc je me suis dit, allez,
une belle énergie dans ce titre.
Ça y va,
c'est formidable. Annonce de fin d'émission. Je vais en faire quelques-unes et puis vous avez peut-être les faux British ou mince, il fallait que je recherche la Comédie Odéon, c'est ce qui les spectacles à destination jeune public. En fait, les annonces auditeurs auditrices vont être assez limitées parce que nous le disions à l'instant à Jérôme Sauvion, période de relâche actuellement, vacances scolaires, les établissements scolaires sont fermés, donc voilà, il y a peu de spectacles. Pour ce qui est du théâtre, bien à part la Comédie Odéon, Célestin non, TNP non, Théâtre de la Croix-Rousse non plus. TNP non, cela commencera néanmoins le vendredi 17 février, c'est-à-dire la semaine prochaine, commencera le début de la première partie de la résidence de l'Harmonie Communale, la compagnie de François Hien, que nous recevions il y a de cela quelques semaines. Première pièce, La Crèche, qui sera donnée ce vendredi 17 février, qui sera donnée ensuite sur quelques dates aussi, et c'est le démarrage donc de cette résidence avec d'autres pièces à venir, La Peur, Olivier Masson doit-il mourir, et puis l'affaire Correra. Je mettrai tous les renseignements sur le blog, je mettrai les dates également, mais enfin voilà, c'est tout démarre ce vendredi 17 février et c'est a priori la seule pièce, non, une autre aussi aura lieu en même temps, Les Femmes Savantes, vendredi 17 et samedi 18 février, une pièce dont je parlais la semaine dernière, une pièce d'une compagnie, j'aurais souhaité les recevoir, ça n'a pas été possible, c'est assez dommage, mais la présentation qu'ils font de cette de cette pièce est assez intéressante. Alors, je n'ai plus sous les yeux. Il est question d'un cadre pop. Il est question d'interrogation des genres sur cette pièce de Molière. Si vous souhaitez en savoir plus, il faudra se rendre le vendredi 17 ou le samedi 18 février au théâtre Métro Atelier. Un endroit que je ne connais pas encore, qui se situe quartier Perrache, derrière la gare, en direction du centre Confluence, pas très loin des archives municipales. Archives municipales, la transition est toute trouvée. Oui, il y a quelques expositions qui ont lieu encore ces jours-ci et qui, je crois, pour la plupart, je crois, me semble-t-il pour certaines, se terminent. Poussin et l'amour au Musée des Beaux-Arts s'achève le 5 mars, le dimanche 5 mars, soit dans moins d'un mois. C'est une belle exposition, je m'y suis rendu. Le catalogue est assez volumineux, assez épais. Les œuvres, il n'y en a pas tant que ça, une quarantaine d'œuvres, mais qui sont très intéressantes. Belle lascivité dans les corps, beaucoup d'érotisme, beaucoup de sensualité. Un peu de sexe aussi, mais c'est quand même assez léger. L'exposition n'est pas du tout déconseillée au moins de 18 ou 10 ou 15 ans. Non, c'est accessible à tout le monde et c'est assez beau. Alors, il y a des œuvres de Poussin qui appartiennent au musée, aux collections du musée, notamment la première œuvre que l'on peut voir, La mort de Kyoné. Et d'ailleurs, déjà dans ce premier tableau, on voit Kyoné qui est morte et étendue. Encore une position peut-être moins lascive que Vénus dans les tableaux suivants. Enfin, voilà, une belle exposition. Et au deuxième étage, une autre exposition, mais enfin, qui est liée, exposition dossier, Picasso-Poussin, Bacchanal. Car le grand maître Picasso, décédé il y a cela 50 ans, en 1973, c'est dans le cadre d'ailleurs de ce 50e anniversaire de sa mort qu'a lieu un peu cette exposition, qui accompagne donc celle de Poussin et l'amour. Picasso, le grand maître, s'est inspiré de certaines toiles de Poussin. Il était très proche, malgré peut-être ce qu'on pourrait croire, dans son univers, dans son imaginaire pictural. Il y a beaucoup de thématiques qui ont plu au maître catalan. Donc, différentes œuvres, des dessins, quelques tableaux, des natures mortes, et puis quelques objets aussi, des assiettes, enfin du moins quelques petites sculptures sont à voir. Donc, au deuxième étage de cette exposition Poussin et l'amour, la billetterie est la même. Hein. Vous entrez Poussin tout d'abord, ce sont les toiles de Poussin qui sont au premier étage, enfin du moins qui sont au rez-de-chaussée. Quand on accède ensuite à l'étage, ce sont celles de Picasso. Il y a encore quelques toiles de Poussin que l'on peut apercevoir aussi. Enfin voilà, c'est au musée des Beaux-Arts, sur la place des Terreaux, et ça se termine le 5 mars, donc encore moins d'un mois pour s'y rendre, mais c'est vraiment très intéressant, très, très stimulant, très... très, très plaisant, très, très charmant. Enfin voilà, il ne faut pas du tout non plus cacher cette dimension... de sensualité. D'autres expositions se terminent aussi, non pas la spectaculaire émission, pas l'émission, l'exposition qui est au musée gallo-romain à Luc du Nom. Cette exposition se termine le 5 juin prochain, donc il y a encore beaucoup de temps. Non, celles qui se terminent sont les photographies de Jérôme Forêt, La Russie à travers mon regard. Ces photographies sont à la bibliothèque du premier arrondissement. Cela a déjà commencé depuis le 12 janvier. Ça se termine le 18 février, soit samedi de la semaine prochaine. Ce sont de belles photos, des formats assez réduits, mais des photos très, très diverses. Moscou surtout, un peu de Saint-Pétersbourg. Déjà 10 ans que je voyage, écrit Jérôme Forêt dans la présentation de cette exposition, en Russie. Je ne cesse de percer des mystères, de découvrir son âme, et elle me l'a bien rendu. Ce sont mes origines russes qui m'ont poussé vers elle, la mère patrie. Je suis né à Lyon et depuis mon enfance, il y a toujours eu des liens avec ce pays qui m'est cher. J'ai côtoyé des artistes du Bolchoï en 2005 dans un opéra de Shostakovich à l'Opéra National de Lyon et ça a été pour moi un déclic. Allez voir les photographies de Jérôme Forêt à la bibliothèque du premier arrondissement et je crois que c'est tout pour l'exposition. Non, il en reste une dernière dont nous parlerons dans un petit mois, le mercredi 1er mars. Nous parlerons de l'exposition « Regard pour l'histoire, dessiner et filmer les procès de mémoire ». Cette exposition a commencé le 15 septembre dernier, se termine le 23 mars. Donc le mercredi 1er, il sera bien temps de recevoir peut-être Bruno Galland, le directeur des archives départementales, car c'est là que se trouve cette exposition. Il a 35 ans, de mai à juillet 1987. Bon, le texte a été écrit en 2022. Se déroulait à Lyon le procès de Klaus Barbie, un procès exceptionnel à tous égards. Ce premier procès en France pour crime contre l'humanité était aussi le premier procès filmé en application de la loi de 1985, créant les archives audiovisuelles de la justice. Dans les années qui suivirent, les procès Touvier 1994 et Papon 1997 à 1998 ont prolongé ce travail de justice et de mémoire. Donc cette exposition propose des différentes œuvres, différents types de documents, des dessins notamment. Il y a aussi des extraits de films qui sont diffusés. Nous en parlerons le mercredi 1er mars et ce sera à peu près tout. De la musique, si, il y a un peu de musique parce que pareil, c'est relâche. L'opéra, il y a eu un beau concert dimanche 5 février. L'orchestre est en forme, hein. Le chef Daniele Rustioni est en forme aussi, c'est une belle œuvre de Wagner qui était donnée, également de Beethoven, le triple concerto avec les solistes qui étaient les musiciens de l'opéra, c'était un choix qui était fait, c'était très bien. C'est agréable peut-être d'entendre Martha Argerich ou d'autres artistes, mais d'entendre les solistes, d'entendre les musiciens de l'orchestre les voir mis en avant, c'était très bien. Nicolas Gourbeck au violon. Et puis, c'était au violoncelle, la violoncelliste polonaise, au nom un peu compliqué, Eva Michnikowska, je crois que c'était ça. Et au piano, c'était Daniele Rustioni lui-même, le chef qui dirigeait depuis le piano ce triple concerto. L'œuvre de Wagner était très belle, donc relâche à l'opéra, pas de ballet, pas d'opéra. Les choses seront à venir prochainement, à la mi-mars, il y aura un festival. À l'auditorium, il y a bien un concert. Jeudi 9 février, normalement c'est relâche, et bien non, concert Roméo et Juliette symphonique, jeudi 9 à 20h, samedi 11 février à 18h, des œuvres de Ravel, Connaisson et Prokofiev. L'ONL sera dirigé par Stéphane Denève et Gauthier Capuçon sera au violoncelle. J'avais dit qu'il y aurait peu d'annonces finalement, il y en a beaucoup, voilà. Mais j'ai inclus un compte-rendu à l'intérieur aussi. Les Faux British, c'est actuellement, c'est ça, Jérôme
voilà,
Sauvion.
À 21h et à 19h, adieu Monsieur Hoffmann, toujours à la Comédie Odéon.
Et puis moi j'ai dit que j'allais renseigner sur le spectacle pour les jeunes publics, je vais le retrouver, non je ne suis pas sur le bon site, je suis sur celui de la Comédie Française, je ne veux pas la Comédie Française, je veux la Comédie Odéon. Il y a donc ce sont des contes. Alors adieu Monsieur Hoffmann, vous l'avez annoncé, c'était à 19h. Et puis voilà, nouveauté, les contes du samedi. Est-ce que c'est bien ça?
Non,
ça
c'était les contes du samedi. Il y a un spectacle de marionnettes aussi l'après-midi, mais j'ai pas le titre là, malheureusement. Désolé.
Alors voilà, je suis au Grand Livre des Contes. C'est du 4 au 18 février, en fait, c'est pendant les vacances scolaires à 15h. Ils sont sympas, la Comédie Odéon. Julien Poncet, que nous avions reçu il y a de cela quelques temps, nous l'avait bien montré aussi. C'est jeune public, durée 45 minutes. Donc on n'est pas dans du Cyrano, ni la grande pièce, ni votre adaptation en 1h30. À partir de 4 ans, écriture et mise en scène, Emmanuel Herman. Il y a un musicien bruteur sur scène, des marionnettistes aussi, une illustratrice, costumière, création lumière, je ne sais comment parler, le Grand Livre des Contes. Je ne vois pas de texte de présentation aussi. C'est un spectacle de marionnettes, théâtre d'ombre et vidéo accompagné de musique et bruitage joué sur scène qui raconte l'épopée du vieux Saadi Fatou à travers le Grand Livre des Contes. Donc c'est actuellement jusqu'au samedi 18, c'est à 15h. Je pense qu'il y a peut-être des formules goûtées qui doivent être proposées, ou il y a un bar.
Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas j'ai vu la scénographie, c'est très chouette.
Ça fait la Comédie Odéon. On n'a pas donné l'adresse, auditeur auditrice, j'espère que vous vous situez bien. Quartier Cordelier, c'est sur la rue Grolet.
Rue Grolet, voilà, je n'ai pas le numéro en tête, mais...
Quartier Cordelier, il voilà. N'y a pas à se tromper, si, moi je vais le trouver, c'est au 6 rue Grolet. Ouais. J'ai même un numéro de téléphone si vous souhaitez avoir des renseignements, le 04 78 82 86 30, 04 78 82 86 30. On n'aura pas tout dit sur Cerno Project, mais on en a quand même beaucoup dit.
Tant mieux.
On a appris qu'on aurait pu se rendre à Haïti il y a de cela quelques années pour voir. Bon, ben c'est un spectacle qui se promène à ce point, c'est que certainement.
Il doit y avoir des raisons.
Un gage de qualité, voilà. Si vous souhaitez en savoir davantage, auditeurs, auditrices, il faut patienter. Ce n'est pas tout de suite. Ça commence le mardi 28 février à 19h. D'ici là, si vous souhaitez voir Jérôme Sauvion sur scène, c'est dans les Faux British à 21h. Il y a des ateliers, indiquez-vous différentes choses. Peut-être que la page Facebook de Face Nord Compagnie donne quelques renseignements ou des
voilà,
éléments.
Voilà, tout doit être là-bas. Oui, je ne m'en occupe pas. Il y a des gens qui le font très bien pour
nous. Nous allons nous séparer en musique. Je vous remercie encore, Jérôme Sauvion. C'est qui nous avez donc suggéré ce titre avec Irruption de Gaël Faye. Un titre un peu.
J'ai travaillé.
Forme de violence, mais.
Voilà. J'ai travaillé il y a un an à peu près avec une jeune, avec Emily Guillen dont on parlait tout à l'heure, donc à la direction, et avec une équipe de jeunes comédiens qui m'ont fait rajeunir un petit peu, puis qui m'ont fait découvrir ce titre que j'aime beaucoup. Voilà.
Ah oui, il y a une grande violence, voilà. dans les mots aussi, dans la vidéo, le clip, mais c'est... Ça semble, hélas, intéressant, bien fondé. Non, peut-être pas, ne cherchons pas. Si, on pourrait chercher, à Radio Canu, on pourrait chercher à évoquer des propos polémiques. Mais à 15h07, il est temps d'en rester là. Pas de blues des Canus à venir aujourd'hui. relâche, qui respecte un peu ce temps de vacances scolaires. 17h, y aura-t-il Mélomaniac ? Je ne sais pas. 18h, Mayday, a priori oui. 19h, Canu Info également. 20h, Idée Noire, émission de l'UCL. Et 21h, je crois que ce sera bien l'émission La Bande-son de nos révoltes. 22h, Bully Mix, émission Funky Stéry. Auditeurs, auditrices, sortez, allez voir des expositions, réservez-vous pour aller voir le Cyrano Project fin février. Jérôme Sauvion, je vous remercie. On va se quitter donc avec Gaël Faye. Peut-être si vous restez à Lyon et que vous avez d'autres projets, on pourra se revoir alors.
Bon,
très bien. Donc voilà, chouette. Une émission est déjà prévue en novembre prochain, ou peut-être novembre 24.
Il y a quelque chose dans les tuyaux. Oui.
Ah, c'est très bien. Je n'égare pas vos coordonnées. Séparons-nous donc avec Gaël Faye. Le titre, je l'avais préparé, je l'ai perdu, je l'ai à nouveau sous les yeux, c'est très bien. Portez-vous bien d'ici, non pas la semaine prochaine, enfin si, portez-vous bien tout court, mais nous faisons une pause, nous, le mercredi 15 février. On se retrouvera le mercredi 22 février pour parler de l'auditorium avec la conseillère musique classique Claire Delamarche. Irruption pour le moment. Gaël Faye, c'est pas trop classique ça, mais c'est bien, ça déménage. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Merci Jérôme Sauvion. Portez-vous
Merci
bien
à vous.
Tous. Au revoir.
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, et Manouchian vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux armes miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans et limé par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus de 20 ans, mais on en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous adhérer des luttes. Donc nous on pend Peter Pan, on va redevenir adultes. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné ça va de soi. Angela qui est fan de choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Codépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, l'Apache de Belleville viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée. Thank you.